la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Chapitre 1er, la meilleure façon de commencer un livre. Par une belle et froide journée d'avril, et les horloges sonnaient 13 heures. C'était là, à la connaissance de Denis Knuckleyard, la meilleure façon de commencer un livre. Hélas, cette pensée lui était venue à un stade inopportun de sa pratique matinale d'adolescent, alors qu'il n'avait pour adjuvant qu'un exemplaire défraîchi du magazine de cinéma Picture Show. Réprimant un gémissement, il comprit qu'un orwellgasme n'allait pas être possible, et après 3 ou 4 secousses désabusées, il cessa de s'obstiner. C'était mort. Encore une journée pourrie à Shoreditch, et les horloges ne sonnaient toujours pas, la plupart des églises voisines ayant été brisées entre les mains maladroites de la décennie précédente. Il devait être 7 heures passées, à en juger d'après la nuance lapis-lazuli du ciel d'octobre, que décantaient les rideaux cafardeux de la chambre d'hôte d'Ada Crevard. Dans le halo d'une lampe de la taille d'une couveuse et d'un jaune papier tumouche, il concéda à son éphémère chérie en page 16 de Picture Show un regard contrit, avant de la rendre sans égard au désordre encombrant sa table de chevet. Elle était d'une beauté époustouflante, des cheveux noirs, pareils à des pétales luisants, avec une coupe au carré qui caressait sa nuque déteint, du mascara semblable à de la limaille prise dans le champ magnétique de ses yeux énigmatiques. Un sourire ironique et licencieux, sa moue soulignée par une touche sombre de rouge à lèvres, laissant entendre à celui qui l'admirait que tout ce dont il avait toujours rêvé était bien sous ses yeux, tout en l'informant qu'il n'avait aucune chance. Le coup de pinceau ondulé et liquide de sa silhouette. Elle avait dû périr avec élégance à l'instar de la pauvre Isadora Duncan, les perles de son collier prises dans l'hélice d'un Spitfire tandis que le gramophone jouait « If you knew Susie » en craquetant. Il entendit monter du rez-de-chaussée les aboiements furieux des chiens qui servaient de poumons à sa vieille logeuse, ce qui signifiait qu'Ada était déjà levée et affrontait la grisaille du jour du haut de sa morgue revêche. Logeuse et patronne et sans doute aussi mère de substitution inquiétante tant qu'à faire. Il avait tout juste 12 ans, la première fois qu'il avait fait le grouillot pour la librairie d'Ada Benson, Lowell's Book and Magazines, d'après l'enseigne, même si personne ne l'appelait jamais ainsi, et qu'il avait toujours pensé que ce nom était celui du précédent proprio. Puis, quand il eut 14 ans, à la mort de sa mère, Ada l'avait laissé s'installer chez elle, à condition putain qu'il ne vive pas à ses crochets et ne la prenne pas pour sa mère, lui dit-elle. Il n'y avait pas de risque. La mère de Denis avait été gentille, à la différence de l'engin ahanant, malveillant et méprisant qu'était Ada Crevard. Il y avait toutefois des avantages. Quand la clientèle se faisait rare, il pouvait piocher à sa guise dans la masse incroyablement variée des livres en rayon, du moment qu'il n'en sortait aucun de la boutique. Cela aurait relevé de l'emprunt, or Ada avait rappelé à de nombreuses reprises qu'elle n'était pas une putain de bibliothèque. Le Picture Show défraîchi, prélevé sur une pile quelconque près de la caisse avec une dizaine de magazines similaires ne valant pas tripette, échappait visiblement à cette règle, laquelle ne devait s'appliquer qu'aux livres. Il avait dû lire le roman d'Orwell par bribes, perché derrière la caisse, quand la librairie avait acquis ce volume en août dernier. Quasi neuf, paru depuis seulement 2 mois, avec sa jaquette verte Secker & Warburg, encore immaculée, déposé par un communiste outré ou par un tory outré qui s'était senti visé en le lisant. Denis n'avait aucune envie de rapporter ce genre de choses dans sa chambre. Même soigneusement rangé au rayon vient de paraître, le livre avait déjà gâché sa matinée. Il troqua à contre-cœur son lit chaud pour des vêtements froids et un air encore plus froid dans lequel il pouvait voir son haleine. Délogeant un résidu de rêve de ses orbites encrassées, il descendit l'escalier à moitié endormi et se rendit dans l'arrière-salle de la boutique, soulagé de voir qu'Ada et sa canonnade bronchitique se trouvaient dans la librairie en train de faire le ménage ou de compter les pièces. Il alla arroser les marguerites au fond de la cour, absorbant sans réagir de gros titres vieux de 15 jours sur les lambeaux de journaux accrochés à un clou tordu, puis se hâta de rejoindre la cuisine en exhalant de petites bulles de brume. La toilette de chat qu'il fit à l'évier de pierre fêlé fut un hommage sommaire à l'hygiène. Et la fine couche de margarine qu'il étala sur un bout de pain rationné, l'équivalent d'un petit déjeuner. Quand Ada l'entendit remplir la bouilloire et rincer la théière, elle réussit à tousser et à brailler en même temps, sa voix aussi agaçante que les cris de 50 corbeaux, disons 40. « Tu peux m'en faire aussi, sale petit vaurien !» fut ce qu'elle dit apparemment, en ponctuant sa phrase d'un crachat bien gras. Denise acquiesça en grommelant, puis leur prépara deux tasses de thé, ajouta du lait et deux sucres, avant de porter chaque tasse dans une main jusqu'à Ada, ouvrant la porte de séparation avec un coude. Fort heureusement, sa patronne avait déjà enfilé sa hideuse robe de chambre rose nouée à la taille, et elle avait déjà collé son Park Drive Plane à moitié fumé sur sa lèvre inférieure. Voilà à quoi ressemblait Ada Crevard en permanence. C'était son uniforme. Ce sont les premières pages du premier chapitre du livre d'Alan Moore, Le Grand Camp, qui, semble-t-il, est le premier volet d'une saga baptisée Long London et qu'il vient de publier donc, qui vient d'être publié même plus précisément en français, traduit par Christophe Clarot. L'auteur est lui britannique et c'est les éditions Bragelonne qui publient pour 25 euros ces quelques 400 pages d'une histoire qui se passe, comme vous l'aurez peut-être compris, à Londres en 1949 et qui commence de manière réaliste. On est dans les stigmates de l'après-guerre et la violence et la reconstruction possible de cette ville largement bombardée. Mais très vite, dès le deuxième chapitre, le livre, le récit va basculer dans du fantastique, c'est un récit de fantasy. Et j'en lis finalement assez peu, donc je n'ai pas forcément les codes, et j'avoue qu'au début, la lecture de ce livre m'a laissé un peu de côté par son aspect un peu baroque, par le côté foisonnant de sa littérature. Alan Moore n'est pas un auteur que j'ignorais jusque-là, puisque j'avais lu pour la plupart ses scénarios de bande dessinée, c'est-à-dire par exemple From Hell, son histoire autour de Jack l'Éventreur, ou encore La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ou V pour Vendetta. Enfin, il a quelques succès de bande dessinée à son actif. Et depuis quelque temps, il publie des récits, des livres de littérature. Mais je n'avais jusque-là pas lu ses œuvres, et c'est chose faite donc avec ce Grand Camp que je viens tout juste d'achever, et qui finalement se laisse lire, c'est-à-dire que passé les remparts des premiers moments un peu fantastiques et d'une sorte de Londres parallèle dont les récits sont écrits au présent et en italique, là où le récit principal est lui écrit au passé, eh bien ce moment parallèle, foisonnant, un peu surréaliste, étrange, monstrueux, bizarre, un peu Lewis Carrollien, et on pourrait y mettre bien d'autres références ésotériques, eh bien, malgré cette réticence que j'avais sur le fantasy, le récit se laisse emporter, vous emporte, à la suite de ce jeune garçon qui a tout juste 18 ans, Dennis Knuckleyard, qui va se retrouver au cœur d'une tourmente éminemment empreinte de littérature, comme on a pu le voir avec la référence à George Orwell dès le début, mais il y en a bien d'autres à l'intérieur du livre, et notamment les ouvrages d'Arthur Machen dont il est largement question, puisque très rapidement, après les premières pages que je viens de vous lire, la cariâtre libraire Ada Crevard va envoyer le jeune Denis chercher une série de livres d'Arthur Machen chez un autre bouquiniste à l'autre bout de Londres, parce qu'elle veut les récupérer pour les vendre, tout simplement. Sauf que dans la caisse de livres que va récupérer le jeune garçon, il y a un livre qui n'est pas de Machen et qui s'intitule « Une promenade dans Londres, méditation dans les rues de la métropole » par un certain révérend Thomas Hampole. Or, ce livre n'existe pas, n'est pas censé exister. Il s'agit normalement d'une pure invention d'Arthur Machen dans un de ses livres baptisé « Chambre meublée tout confort ». À partir de cette torsion de la réalité, ce livre qui n'existe pas et qui pourtant existe bien dans les mains du jeune garçon, eh bien, on va avoir l'ouverture vers un autre monde. On est donc dans un récit qui entremêle la littérature et qui est aussi une belle déclaration d'amour à la littérature, aux livres, aux librairies et aux bibliothèques, et à toutes les potentialités borgésiennes de la bibliothèque labyrinthe. On est dans beaucoup de choses, car Alan Moore est un garçon très érudit et donc il y a plein de méta-références et d'allusions à la fois complètement réalistes et pertinentes à l'histoire et à la géographie londonienne, mais aussi à tout l'univers ésotérique, fantastique, imaginaire qui a été développé par bien d'autres créateurs et créatrices avant lui et auquel il rend largement hommage, notamment dans quelques pages de remerciements en fin d'ouvrage. C'est aussi un essai assez saisissant sur la question du mal, de la violence faite au cœur de Londres par les bombardements, mais la violence aussi qui a été générée par l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'est en tout cas l'une des thèses d'Alan Moore, et qui aurait développé la puissance du mal, notamment chez un certain nombre de tueurs en série. Alors on retrouve évidemment la fascination, ou en tout cas plutôt l'étude, que Alan Moore a pu faire autour de la figure de Jack l'Éventreur, qui revient à plusieurs endroits dans ce livre Le Grand Camp, mais aussi à travers d'autres figures de tueurs en série, et comment cette question du mal, de la violence gratuite, de la violence sadique, revient très régulièrement au cœur de son ouvrage. Et puis il y a bien d'autres figures qu'on pourrait redétailler et qui sont souvent récurrentes dans les ouvrages d'Alan Moore, qu'ils soient en bande dessinée ou en littérature. Il y a de la musique aussi, quelques références musicales, il y en avait une petite glissée dans les premières pages que je viens de vous lire. On trouve tout à la fin une référence à Prefab Sprout, mais aussi, par exemple, et toujours autour de la figure des tueurs en série, qui tous s'appelleraient peut-être Williams à différents endroits, eh bien, il y a une référence, un clin d'œil, au vol de l'alouette du magnifique compositeur Ralph Vaughan Williams, que nous allons donc écouter pour terminer cette chronique, je lis, autour du Grand Camp d'Alan Moore aux éditions Bragelonne.